Ireland.
Ireland, uh-huh.
Accent d'Europe, Laurent Berthaud.
We got the Brexit blues.
Bonjour à tous, ils sont nombreux au Royaume-Uni, tous ceux qui ont le blues après le vote en faveur du Brexit en juin dernier, à commencer par les étudiants européens. Ils sont près de 125 000, soit 6,4% des étudiants à l'université. Jusqu'à présent, ils paient les mêmes frais que les Britanniques, en moyenne 10 000 euros par an, mais après le Brexit, ils pourraient bien rentrer dans la case étudiants internationaux et devoir payer des frais parfois 2 à 3 fois plus élevés qu'actuellement. Une perspective qui n'est pour l'instant ni confirmée ni infirmée par le gouvernement, mais qui inquiète beaucoup les étudiants. Un reportage de Marie Billon.
Le campus de l'université Queen Mary dans l'est de Londres n'est jamais calme. Les 20 000 étudiants vont et viennent d'un bâtiment à l'autre, d'un cours à l'autre ou d'une conférence à l'autre. Avant et depuis le 23 juin, ils ont tenu de nombreux débats formels ou informels sur le Brexit. La majorité ici était farouchement pour rester au sein de l'UE. Il faut dire qu'environ 12% des étudiants de cette faculté sont des ressortissants européens. Linas Zoukaitis a 24 ans, il arrive un peu essoufflé. Ce matin, il a dû s'occuper de ses 2 enfants avant de courir à son cours de la mi-journée. Il est arrivé de Lituanie il y a 8 ans et comptait faire sa vie ici. Le Brexit change complètement ses plans, dit-il.
Je ne pense pas que je pourrai faire un master parce que je vais devoir assurer ma sécurité et ma stabilité financière vu les incertitudes qui planent sur l'économie actuellement. Sans Brexit, j'aurais voulu continuer mes études, j'aurais voulu mettre ma pierre à l'édifice de la société britannique, mais aujourd'hui j'ai l'impression que ma contribution ne serait pas appréciée parce que je suis européen. Theresa May a dit qu'elle ne pouvait pas garantir le statut des Européens vivant au Royaume-Uni, donc je risque de devoir quitter le pays.
Caterina est plus optimiste. Cette Italienne de 23 ans est en 3e année d'histoire et sciences politiques. Elle espère pouvoir continuer ses études malgré tout.
Mes frais d'université vont augmenter, j'en suis certaine. Un gouvernement qui a tellement besoin d'argent ne va pas rater l'opportunité d'aligner le prix pour les étudiants européens à ceux des non-européens. Et puis il y a la question des visas. Jusque-là, j'ai pu avoir un prêt étudiant, donc j'en ferai un plus gros pour continuer mes études si je suis acceptée. Mais je ne sais pas si j'aurai les moyens aussi pour un visa. Après tout, la vie à Londres est déjà assez chère comme ça.
Pour Caterina, ne pas pouvoir venir étudier au Royaume-Uni, son rêve, aurait été un vrai traumatisme, dit-elle. Elle s'inquiète pour les générations d'étudiants qui la suivront et qui, eux, devront peut-être faire une croix sur leurs rêves. En attendant, Londres continue à célébrer ses étudiants internationaux. Il y a quelques jours, elle a honoré les plus inventifs d'entre eux avec les International Student Innovation Awards.
Please could all shortlisted students come to the stage for a group photo.
La cérémonie s'est tenue dans le grand hall de la prestigieuse université St Martin's Central, dans le nord de Londres, à 2 pas de la gare de l'Eurostar. Elle était co-organisée par la mairie de Londres. Kevin McCarthy est chef du département éducation à l'organe de communication de City Hall, London and Partners. Alors que tout le monde bavarde un verre à la main, lui fait la tournée des journalistes pour leur expliquer à quel point la capitale, dont 30% des étudiants sont européens, reconnaît la valeur de ces jeunes.
The mayor of London, Sadiq Khan.
Sadiq Khan a dit qu'il voulait que Londres reste ouverte aux talents. Il considère que les étudiants européens font partie des jeunes talents. C'est donc un point crucial qu'il avancera lors des négociations. Et j'espère que les jeunes européens ne sont pas rebutés à l'idée de venir étudier ici parce qu'ils sont toujours les bienvenus. Nous considérons que nos universités font toujours partie du réseau européen.
En septembre 2016, le nombre d'étudiants européens à Londres avait augmenté de 11% selon Kevin McCarthy. Mais selon l'organisme UCAS, le service des admissions universitaires nationales, la demande pour septembre 2017 a baissé de 9% au niveau national. Et ce malgré l'assurance donnée par le gouvernement que tous les étudiants débutant leur cursus en 2017 paieront les frais européens et non internationaux pendant les 3 années de leur licence. Et certaines universités se sont même engagées à conserver les mêmes tarifs après le Brexit, envers et contre tout. Mais Lee Wildman, chef du recrutement international à l'université de Linas et Caterina, Queen Mary University, estime que ce genre de promesse ne vaut pas grand-chose.
Aujourd'hui, nous ne sommes pas en mesure de nous engager. Tout dépend de ce que décidera le gouvernement. Mais nous maintiendrons les frais européens aussi longtemps que possible.
Pourtant, certains y croient. Simon et Nathan, deux Français, étudient à l'Imperial College, spécialisé dans les sciences. Ils font partie des finalistes de l'International Student Innovation Awards avec leur invention, des semelles de chaussures qui servent de GPS. Le piéton ou le cycliste sent vibrer sa chaussure à droite ou à gauche selon la direction dans laquelle il doit tourner, par exemple. C'est encore un prototype, mais ils aimeraient pouvoir l'améliorer.
Les universités anglaises essaient vraiment de protéger les étudiants internationaux. Donc au final, pour l'instant, on n'est pas tellement effrayé. Et je pense que les Anglais vont essayer de faire tout ce qu'ils peuvent pour permettre aux étudiants internationaux qu'ils attirent de pouvoir les garder, même et de leur offrir des visas de travail s'ils sont suffisamment bons. Donc au final, pour l'instant, et sachant aussi que c'est très récent, on n'est pas trop effrayé pour l'instant. Et la présidente de Imperial College, par exemple, s'est engagée à faire tout ce qu'elle pouvait pour garder les frais de scolarité au même niveau pour les étudiants européens et de pouvoir continuer à attirer le plus d'étudiants possible.
Parce que Imperial, c'est tellement international que c'est impossible qu'ils survivent sans le Brexit. C'est-à-dire que moi, dans mes profs, je suis en troisième année, j'ai eu une vingtaine de profs. J'en ai eu un qui était anglais. Ils étaient grecs, allemands, chinois. Donc même au niveau des profs, c'est impossible le Brexit. Et ensuite, là, dans mon département, on est 200, je connais pas d'anglais. C'est-à-dire qu'il y en a à peine. Donc ça tuerait l'institution qu'ils empêchent les étudiants étrangers de venir. Et puisque c'est une institution qui est vraiment un trésor du Royaume-Uni, je pense qu'il n'y a rien qui changera et ils feront tout pour. Ça reste comme avant.
17% des professeurs au Royaume-Uni seraient des ressortissants européens. Et leur avenir aussi dépendra du statut que le gouvernement aura négocié pour eux. Mais si les deux jeunes hommes ne veulent pas croire au pire, Nathan reste quand même réaliste.
Dans ce cas, ça deviendrait d'un coup beaucoup moins attractif de venir ici parce que ça serait le prix des institutions américaines et ça tuerait vraiment leur compétitivité au niveau européen de faire ça. Bon, à ce prix-là, il faut mieux aller aux États-Unis où il n'y a pas beaucoup de parents qui peuvent le payer, donc autant rester en France avec des études gratuites.
Et si certains étudiants craignent que leurs diplômes perdent de la valeur avec le Brexit, les universités craignent aussi que ce flot d'incertitudes n'endommage leur réputation.
En Turquie, depuis la tentative de coup d'État le 15 juillet dernier, le pouvoir, vous le savez, multiplie les arrestations de militants, d'hommes politiques et de journalistes soupçonnés de liens avec le PKK. Mais si les attaques contre les médias d'opposition font régulièrement les gros titres de la presse internationale, en Turquie même, une autre presse s'en réjouit, celle qui soutient le gouvernement, y compris contre ses confrères. À Istanbul, Anand Lower nous en dit plus sur ces porte-voix du pouvoir.
Sabah, Turquier, Yeni Şafak, Takvim, Akşam, Star, à l'étranger, ces journaux turcs sont loin d'être les plus connus. Leurs journalistes, leurs chroniqueurs ne sont pas convoqués au tribunal tous les 4 matins. Et pour cause, ces titres sont résolument, ouvertement, inconditionnellement des soutiens et des porte-voix du gouvernement. On aurait tort de les ignorer. Ces 6 titres, et il y en a d'autres, sont influents. Ensemble, ils tirent chaque jour à près d'un million d'exemplaires. À l'heure où des dizaines de leurs collègues sont derrière les barreaux, les journalistes turcs sont souvent accusés de manquer de solidarité et de rester muets. Pour beaucoup, c'est le fait de l'autocensure, la crainte de perdre son emploi. Mais pour beaucoup d'autres, et notamment pour ceux qui travaillent dans ces quotidiens téléguidés par le pouvoir, il ne s'agit pas de soutenir, mais de prendre pour cible leurs confrères inquiétés. Qu'on en juge plus tôt. Début novembre, quand 10 journalistes du quotidien d'opposition Cumhuriyet ont été arrêtés, les journaux pro-gouvernement ont pris un malin plaisir à commenter l'affaire. Je cite quelques premières pages. Yeni Şafak. Ils ont soutenu le terrorisme, ils ont encouragé le putsch. Sabah. Cumhuriyet a reçu de l'argent par sac entier des terroristes de la FETÖ. FETÖ désignant l'organisation du prédicateur Fethullah Gülen, cerveau présumé du coup d'État. Takvim, descente de police chez les propagandistes du PKK et de la FETÖ. Les mêmes accusations sont reprises, sans aucune preuve, dans les pages intérieures et les textes des chroniqueurs. Ces gros titres se retrouvent aussi, identiques au mot près, sur les chaînes de télévision appartenant au même groupe. Il arrive même régulièrement que tel ou tel chroniqueur annonce, avant la justice, les ennuis qui vont s'abattre sur les titres d'opposition. Comme autant de messages que le pouvoir distille, plus ou moins subtilement, aux journalistes encore épargnés.
Anand Lower à Istanbul. Olivier Bertrand, le journaliste français du site Les Jours, n'a quant à lui pas été épargné. Il y a 15 jours, il souhaitait réaliser un reportage sur une école pour les Syriens qui veulent apprendre le turc, située à Gaziantep, à quelques dizaines de kilomètres de la frontière. Les policiers l'ont arrêté sur place et jeté en prison pendant 3 jours, officiellement parce qu'il n'avait pas les autorisations nécessaires à ce reportage. Pour Olivier Bertrand, relâché et rentré en France, c'était un prétexte et le journaliste a d'abord raconté à Catherine Roland son état d'esprit pendant son incarcération.
Ce qui est certain, c'est qu'à un moment donné, on se demande si on est là pour quelques heures ou pour quelques mois. Pour plusieurs raisons. D'abord parce que je ne savais jamais avec qui j'étais. Ils ont toujours refusé de me dire dans quel service je me trouvais, avec quel policier j'étais, et éventuellement même s'ils étaient policiers ou pas. Il est arrivé que je me demande si j'étais avec des hommes du renseignement turc ou avec des policiers. Personne ne voulait répondre. Et puis surtout, vous avez des moments de douche écossaise où on vous fait croire que vous allez sortir. On vous amène même tout près d'une porte, et puis au tout dernier moment, on tend des menottes, on vous demande vos poignets, et on vous... Donc assez vite, pour se préparer psychologiquement, mentalement, pour tenir, et puis il faut se dire qu'on est là pour quelques mois. Donc c'est ce que je me suis dit, notamment le samedi matin. J'étais enfermé dans un sous-sol, une sorte de cellule dans un sous-sol. Et là, voilà, pour tenir, pour vivre le moins mal possible cette expérience, c'est pas plus mal de se dire qu'on est là pour quelques mois. On est préparé, on ne peut plus avoir que des bonnes surprises.
Oui, mais il faut dire que quand même l'ambiance a un petit peu changé en Turquie ces derniers mois. 170 organes de presse qui ont été fermés, 105 journalistes turcs au moins arrêtés. Est-ce qu'on peut aujourd'hui exercer son métier de journaliste en Turquie ?
Quelques journalistes, certains journalistes continuent à faire leur métier avec énormément de courage. Je pense par exemple à mes collègues de Cumhuriyet, quotidien national, dont le rédacteur en chef est actuellement détenu, dont 10 des journalistes sont détenus, dont l'un des éditorialistes et journalistes, Can Dündar, a été condamné à plus de 5 ans de prison. Donc des journalistes résistent, font leur métier, mais ils sont extrêmement rares parce que le pouvoir désormais, après s'en être pris aux journaux kurdes depuis très longtemps, puis aux journaux clairement d'opposition, s'en prend aujourd'hui à toute forme de critique et même toute forme de questionnement de sa politique. Je pense par exemple à un éditorialiste que je connais, qui travaille lui pour un quotidien extrêmement conservateur et extrêmement proche du pouvoir, mais qui avait une parole un tout petit peu plus libre dans ses éditoriaux et qui a été viré il y a un mois parce que cette parole... Le seul fait de questionner quelquefois les décisions de Recep Tayyip Erdogan aujourd'hui vaut exclusion d'un média, voire emprisonnement.
Oui, la répression envers les journalistes turcs est assez dure en ce moment. Est-ce que vous pensez que de votre côté, votre statut de journaliste étranger, européen, vous a malgré tout un petit peu protégé ?
Il est certain qu'il est plus confortable d'être un journaliste européen, français, qu'être un journaliste turc aujourd'hui en Turquie, ça c'est certain. Et je pense que si j'ai été expulsé rapidement, c'est dû au fait que l'ambassade de France a fait pression et puis que... Et je le sentais à l'attitude également des policiers. Par exemple, j'ai été transféré du sud de la Turquie, Gaziantep, jusqu'à Istanbul, en voiture, 12 heures de voiture avec des menottes. C'est pas très agréable, mais je sentais bien l'attitude des policiers que s'ils avaient pu me mettre en même temps quelques coups en plus, ça leur aurait pas déplu. Je pense que s'ils n'ont pas osé le faire, c'est parce qu'ils étaient avec un journaliste français et pas avec un journaliste turc.
Et vous pensez qu'en tant que journaliste étranger ou que les journalistes étrangers peuvent encore travailler facilement en Turquie ? D'abord, est-ce qu'ils vont obtenir des visas ? Et est-ce qu'ils seront libres de leur mouvement ?
Aujourd'hui, il y a encore des médias étrangers qui font leur travail en Turquie, qui le font même très bien. Et je pense aux gens du Spiegel, qui font un travail remarquable, qui d'ailleurs, du coup, se sont vus refuser le permis de séjour et la carte de presse qu'il faut quand on est correspondant. On peut continuer à travailler, mais c'est certain que là, mon expulsion peut-être servait également de message envoyé aux rédactions européennes. Faites attention, les journalistes turcs ne peuvent plus faire leur travail. Et c'est pas les médias étrangers qui vont venir remuer ce qu'on veut pas remuer en Turquie.
Est-ce que c'est pas également un avertissement vis-à-vis de l'Union européenne, l'Union européenne qui est assez prudente, d'ailleurs, faut dire qu'elle a besoin de la Turquie en ce moment, notamment sur la question des réfugiés.
L'Union européenne, oui, effectivement, a fait preuve de beaucoup de lâcheté. C'est plus que de la prudence, c'est souvent de la lâcheté ces derniers mois. Contre un accord signé en mars et qui permet de retenir 2,8 millions de réfugiés syriens en Turquie, on a beaucoup fermé les yeux. Je crois que l'Union européenne commence à se réveiller un petit peu, envisage maintenant et va probablement geler le processus d'adhésion, ce qui peut être pas maladroit, parce que je pense que le rompre serait terrible pour les Turcs. Je parle là des citoyens turcs. Ça permettrait au pouvoir d'Ankara de dire, voyez, les Européens ne veulent pas de nous. Et ça souderait un petit peu plus encore autour d'Erdogan le nationalisme turc. Geler le processus est peut-être la meilleure solution actuellement.
Olivier Bertrand du site Les Jours avec Catherine Roland.
Ça sent la bière de Londres.
C'est un poncif d'associer la Belgique à la bière, mais aujourd'hui c'est le pays lui-même qui veut inscrire sa culture de la bière au patrimoine mondial de l'UNESCO. Le dossier de candidature est examiné à partir de ce lundi à Addis Abeba en Éthiopie. À Bruxelles, le reportage de Laxmi Lota.
Voilà, c'est une bière légère, et framboise.
Santé.
Blanche, brune, rouge, ambrée, fruitée, trappiste, d'abbaye, spéciale, pils, gueuse. En Belgique, la bière se décline à l'infini. Pas de demi-mesure, il en existe plus de 3000 sortes dans le pays. En terrasse, Frédéric savoure la sienne, à la framboise pour le dessert.
C'est agréable à boire, il y a une variété de bières, une variation de goût, et c'est vraiment bon. Et c'est les Belges qui font la meilleure. Il y a plein d'occasions de goûter une nouvelle bière, et puis chacun a sa bière préférée. Et donc moi je suis assez classique, l'Orval est sans doute une des meilleures bières belges. Elle est unique, donc c'est une bière trappiste, faite par des moines, c'est une tradition. C'est une bière ambrée qui est assez forte, qui a beaucoup de goût, une certaine amertume, mais qui est en même temps relativement douce. C'est une bière très particulière qui est très agréable à déguster. Ouais.
François, son ami, est français. Il est d'accord, au même titre que la Grand Place de Bruxelles, la bière mérite d'être inscrite au patrimoine mondial de l'humanité.
Je ne peux pas poser mon cœur sur une bière, c'est impossible, il y en a trop. Il y a vraiment des goûts qu'on ne peut pas soupçonner dans, moi étant français, Cronenbourg, Canterbro, c'est, sans les critiquer particulièrement, mais c'est d'un plat comparé à ce qu'on peut trouver en Belgique. Il y en a tellement que c'est toujours nouveau. J'aime bien découvrir, c'est la découverte moi qui m'intéresse. Mais je ne suis même pas sûr qu'avec une vie on y arrive.
En France, les coteaux de Saint-Émilion, de Bourgogne et de Champagne sont déjà inscrits sur la liste de l'UNESCO. La Belgique veut apporter sa bière à l'édifice. Jean-Louis Van de Perre, président de la Fédération des Brasseurs de Belgique.
C'est vraiment le paradis pour les amateurs de bière. Et c'est ça qui fait le caractère unique de la culture de la bière en Belgique, c'est cette diversité des bières. Et c'est une tradition, en fait, ancestrale. Ici, on est à la Fédération des Brasseurs de Belgique. En fait, cette association existe déjà depuis 7 siècles. C'est bien d'avoir toutes sortes de bières, mais elles doivent être aussi de qualité constante et exceptionnelle pour aussi se différencier par rapport aux autres pays, parce qu'il y a d'autres pays qui ont aussi de très bonnes bières. Mais je crois que le Belge parvient à combiner la tradition, l'innovation, la diversité et la qualité. C'est un liquide très précieux, comme le vin pour la France.
Le dossier de candidature belge insiste sur cette qualité, ce savoir-faire et sur une tradition ancrée dans tout le pays. Jean-Louis Van de Perre.
C'est vraiment quelque chose de familial. Quand on voit les brasseurs au fil des siècles, c'était des entreprises familiales. Et aujourd'hui, ça se perpétue. Ce sont encore des familles qui exploitent les brasseries. Il faut savoir qu'au début du XXe siècle, il y avait 3000 brasseries en Belgique. Et donc, chaque village avait au moins sa brasserie. Et puis, vous avez eu les deux guerres qui, malheureusement, ont eu un impact économique sur toute l'Europe et aussi sur les brasseries. Donc, il y a eu moins de brasseries. Il y a des brasseries qui ont dû fermer.
Il existe actuellement 200 brasseries dans le pays. Autre particularité de la Belgique, la variété des méthodes de production. Fermentation à basse température pour les bières dites pils, à haute température pour les bières spéciales blanches, blondes, fortes, ou mélange des deux, fermentation mixte pour les rouges des Flandres. Enfin, fermentation spontanée à température ambiante pour les gueuses.
On est sympa, on est belge, on boit une bonne bière et je crois que les touristes nous aiment bien pour ça aussi.
Mona Cassel, serveuse dans un bar près de la Grand Place, elle propose une dégustation aux touristes.
En Belgique, si on vient pour maigrir, c'est pas possible. On a vraiment de bonnes choses. Les frites sont bonnes, les chocolats, on a quand même des grands chocolatés ici et la bière, ça passe bien. Donc en fait, nous, dans notre dégustation, c'est vraiment 5 bières au fût plus une bière en bouteille. On présente une bière sucrée parce que généralement les femmes aiment bien, bière aux fruits qui est framboise, cerise à peu près. On a la Stella, c'est une bière pils, donc vraiment la plus basique, une lève blonde, une blanche, une ambrée qui est la couac, aussi très populaire, et la Delirium, la bière la plus connue.
Santé.
Et Guillaume en est convaincu, la bière belge est la meilleure.
Je crois aussi que la bière en Belgique est de super qualité. Je veux dire, c'est plus qu'une eau à l'orge qu'on peut boire, en France par exemple. Ce qui est vraiment bon, c'est la spéciale, qui est vraiment brassée par des moines. Et là, je crois qu'on peut comparer ce genre de bière à des grands vins ou des grands whisky ou d'autres choses, quoi.
Les moines ne brassent plus eux-mêmes, mais l'image reste dans l'imaginaire collectif. Réponse de l'UNESCO ce mercredi, sûrement un jour à marquer d'une bière blanche pour la Belgique.
Jérémy Besset et Françoise Grelot ont réalisé cette émission. Accent d'Europe à retrouver demain dès 12h40 en universel.